Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Chauvet.
Et aujourd'hui, une question, quelle sera la nouvelle donne politique en Espagne?
Voilà, avec une actualité assez lourde, notre invité Benoît Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Alors, si j'ai bien compris, d'ici à dimanche au plus tard, le Parti socialiste devrait s'abstenir au second tour du scrutin pour permettre l'investiture du nouveau gouvernement Rajoy, Parti populaire, la droite, lequel expédie les affaires courantes depuis décembre dernier. On évite ainsi une troisième élection en décembre prochain. Il a fallu pour cela que le PSOE, le Parti socialiste, se débarrasse de son secrétaire général Pedro Sánchez, qui aggravait les déchirements du parti, menaçait de conduire le Parti Socialiste à la mort clinique, le PSOE ayant tout à perdre dans de nouvelles élections, étant marqué à la culotte, si vous me permettez cette expression, par la gauche radicale de Podemos. À cette équation nationale, et ce sera le dernier élément, il faut ajouter l'équation régionale qui interagit. D'une part, les scrutins de septembre en Galice et au Pays Basque ont sanctionné l'effondrement des socialistes, et d'autre part, le débat est largement pollué par la question de l'indépendantisme catalan. Barcelone prévoit un référendum sur l'indépendance en septembre 2017, même si celui-ci, évidemment, est anticonstitutionnel. Est-ce que je n'ai pas dit de bêtises parce que j'ai eu du mal à synthétiser tout cela ?
Non, vous avez fait effectivement la photographie de l'ensemble des défis qui se posent bien au gouvernement qui va entrer en fonction sans aucun doute samedi, puisque le vote, le premier tour du scrutin d'investiture a lieu dans l'après-midi, aujourd'hui. Ce vote sera négatif, puisque le Parti socialiste votera d'abord non, histoire de bien montrer qu'il est opposé à la droite, mais au deuxième tour, ce sera l'abstention, une abstention responsable pour permettre ce fameux déblocage de la situation politique, car comme vous le rappeliez, cela fait plus de 300 jours que le gouvernement Rajoy est un gouvernement en fonction.
Alors, ce gouvernement, donc, on va dire de droite, va gouverner avec Ciudadanos, là aussi, est-ce que j'ai bien compris, et il ne profite en tout cas que de 137 députés sur 350, c'est bien ça ?
Voilà, c'est la base sur laquelle pourra s'appuyer Mariano Rajoy. Ce sera un gouvernement monocolore du Parti Populaire, parce que même s'il y a un accord de législature entre le Parti Populaire et Ciudadanos, Ciudadanos a fait savoir qu'il ne souhaitait pas entrer au gouvernement. Et Mariano Rajoy ne cherche pas vraiment à faire entrer les centristes dans sa combinaison gouvernementale. Il était intéressant d'ailleurs hier d'écouter Mariano Rajoy dans son discours programme, car il a effectivement souligné le fait que son gouvernement ne serait pas aussi stable qu'il l'aurait souhaité, ne serait pas aussi sûr, et que ce serait en fait jour après jour qu'il devrait négocier avec le Parlement l'adoption des textes de loi. Et on va avoir un premier signe très rapide qui va être la discussion sur le budget 2017 qui doit être mené très rapidement. Normalement, Madrid aurait dû remettre fin octobre à Bruxelles un schéma de redressement de ses finances publiques. Bon, il y aura un petit délai, mais on va tout de suite voir au mois de novembre si effectivement la construction de ce budget est possible ou non.
Alors le Parti Socialiste qui est en pleine déconfiture, ce Parti Socialiste au fond a dit qu'il ne voulait pas collaborer avec le Parti Populaire et qu'il ne ferait rien pour voter des lois ou faciliter leur vote évidemment.
Voilà, le Parti Socialiste est la grande victime de ce blocage politique et il faudra regarder de très près le scrutin de samedi après-midi, le deuxième tour, car hier le porte-parole du groupe parlementaire a bien rappelé qu'il y avait une discipline de vote et que les 85 députés socialistes étaient appelés à s'abstenir. Or, nous savons d'ores et déjà que 7 députés issus du Parti Socialiste catalan voteront non. Et par ailleurs, l'ancien secrétaire général du Parti Socialiste, Pedro Sánchez, celui-là même qui a été défenestré le 1er octobre dernier, a rappelé qu'il n'avait pas l'intention de s'abstenir. Donc, il risque d'y avoir à nouveau la manifestation de la profonde division qui est en train de mener quasiment à une scission du Parti Socialiste. Alors, tout dépend du nombre de députés qui manifesteront ainsi leur indiscipline. Si on est sous les 10 députés, je dirais, l'opération est réussie. Si en revanche, on a 15 ou 20 députés socialistes qui votent non à Mariano Rajoy, ça n'empêchera pas l'investiture de Mariano Rajoy, mais ça voudra dire véritablement que le Parti Socialiste est en train entrer dans un état de décomposition, recomposition tout à fait préoccupant. Je rappellerai quand même cette formule de l'actuel président du Parti Socialiste, qui est un président provisoire, Javier Fernández, par ailleurs président de la communauté autonome d'Asturie. Il a dit « L'incendie a ravagé la maison socialiste, tout est à reconstruire, il ne nous reste que le terrain ». On ne peut pas dire que la formule soit très enthousiaste.
Non, effectivement, au moins il a le sens de l'humour dans des périodes difficiles. Juste d'un mot, ça soulève une question de fond quand même. Alors tout le monde dit la social-démocratie en Europe, etc., est très malade ou ça ne marche plus. Mais il y a quand même une question de fond qui est d'ailleurs plus autant européenne qu'espagnole. C'est au fond, est-ce que ces partis comme Podemos, on va dire gauche radicale, comme on dit, je ne sais pas si la formule est bonne, comme Ciudadanos, qui émanent de la société civile, on dit toujours la société civile de façon un peu pompeuse, et est-ce que sont vraiment des partis de gouvernement, parce que comme le parti la droite était émiettée, la gauche est effondrée, est-ce que ce sont vraiment des partis de gouvernement? Est-ce que cette émergence comme ça de la dite société civile pallie ce manque?
Alors pour Ciudadanos, sans aucun doute, le parti centriste a montré son caractère extrêmement responsable. N'oubliez pas qu'en février dernier, il avait passé un accord de gouvernement avec le Parti Socialiste dans l'idée de réformer et surtout de lutter contre la corruption. Puisqu'il y a eu des secondes élections et que cette fois-ci le panorama, le rapport de force avait changé, Ciudadanos est passé du côté du Parti Populaire, jouant ce rôle de parti charnière, alors qui n'est pas toujours facile par rapport à l'électorat, mais qui est absolument essentiel pour la création d'un gouvernement et d'une majorité parlementaire. Du côté de Podemos, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a une surenchère en parti populiste, mais par ailleurs, Podemos est présent dans un certain nombre de mairies, est présent comme soutien parlementaire dans le gouvernement de plusieurs grandes régions gouvernées par les socialistes, et c'est là où on voit du coup l'extension de la crise politique. Par exemple, en Castille-La Manche, la grande région au sud de Madrid, le gouvernement socialiste qui reposait sur le soutien sans participation des députés régionaux de Podemos, aujourd'hui dépend des votes du Parti Populaire, puisque Podemos a décidé de retirer son soutien aux socialistes. Et l'autre grande région qui maintenant peut être menacée de la rupture de cette coalition des gauches, c'est la région de Valence, qui est véritablement emblématique de la tentative de construction d'une majorité alternative au Parti Populaire. Donc Podemos est quand même, malgré tout, dans une dynamique électorale et politique relativement favorable, mais qui effectivement se nourrit de l'effondrement de ces fameux partis de la social-démocratie.
Juste d'un mot, Benoît Pellistrandi, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'Espagne contemporaine. On voit quand même, et ce n'est pas du tout satisfaisant, qu'il y a des interactions entre la grande politique nationale, malgré ses défauts, et les politiques régionales, il faudrait les mettre au pluriel.
Oui, il faut les mettre au pluriel, et bien sûr, vous aviez raison d'évoquer tout à l'heure la grande question catalane. Alors, le drame, c'est que comme le Parti Socialiste est déchiré, et que les socialistes catalans sont en train de divorcer des socialistes espagnols, le Parti Populaire ne peut pas compter sur le Parti Socialiste pour articuler une réponse cohérente, constitutionnelle et globale aux défis indépendantistes catalans. Et en septembre 2017, si le gouvernement catalan organise un référendum d'autodétermination, ce sera beaucoup plus grave qu'en novembre 2014, oui, il y avait eu un référendum qui avait été largement conduit en sous-main par le gouvernement catalan, mais qui officiellement n'émanait que de la société civile. Donc on risque d'aller vers un choc constitutionnel, affectif et régional, extrêmement douloureux pour l'Espagne en 2017.
On aura le temps, malheureusement, d'en reparler. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir mis en perspective ce dossier. Benoît Pellistrandi, pour vous écouter franceculture.fr et pour vous télécharger également.
Merci Thierry Garcin. Et demain, il sera question de l'état de droit malmené dans l'Union européenne.
Oui, j'ai mis malmené, mais on pourrait dire violé, notamment par la Hongrie et la Pologne. Donc, notre invité sera Édouard Dubou, qui est professeur à Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne.